Et en fait, en arrivant ici, je me rends compte que toutes les espèces que je pouvais voir, je les ai vues. Donc déjà, ça t'envoie quoi comme message? Ça t'envoie que c'est fonctionnellement viable, parce que les espèces, elles trouvent toutes l'habitat qu'il leur faut pour vivre. Donc tu te dis, bon, bah bingo, j'ai gagné. Et c'est vraiment impressionnant de te dire que sur 17 hectares, tu arrives à voir tout ce que tu pourras avoir, quoi. C'est déjà ce qui est beau, en fait, c'est de se dire que là, ce que tu vois, tout ce que tu vois, ça n'a que 17 ans. Et pour moi, le « que », il est vraiment important. On a fait une zone humide, une vasière, pour les limicoles. C'est les oiseaux sur pattes avec un long bec qu'on va surtout en bord de mer à la chasser les vers sur la plage. Donc je remets le barrage en eau et tout. Le lendemain, il y avait deux chevaliers gambettes. C'est juste qu'ils passent en migration, ils ne s'arrêtent pas. Parce que bah, il survole des champs de maïs, ça n'a aucun intérêt pour lui. Donc ça se trouve, bon, bah, il va se fatiguer, il va mourir de faim parce qu'il bah, n'aura rien trouvé sur sa route pour s'arrêter, reprendre des forces. Mais maintenant, ceux qui passent, bah, quand ils passent au-dessus de la ferme, ils vont s'arrêter. En fait, toute l'année, moi, depuis que je suis là, c'est ça que je vois. C'est que tous les jours, il y a des nouveaux trucs qui sont posés, des nouveaux machins, et qui viennent s'alimenter, qui viennent se poser. Parce qu'ils bah, ont eu la chance de passer au-dessus du Grand Laval et qu'ils voient qu'au-dessus du Grand Laval, bah, il n'y a pas que du champ de maïs. T'es déjà dans quelque chose de très vivant, de très sauvage, qui répond vachement bien. Et tu te dis, bon, bah en fait, je peux le voir à l'échelle humaine. Tu te dis pas, bon, il faut encore que la nature, elle tienne 100 ans avant que ma forêt, elle puisse les accueillir. Non, non, en fait, en 15 ans, en même pas une génération, et tu peux proposer quelque chose au vivant.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 79 du podcast Agroécologie Voyageuse. Je suis Opaline, créatrice de ce podcast, et ce qui me nourrit profondément, c'est le vivant qui se régénère dans les fermes, catalysé par les êtres humains. 3 mois après avoir été découvrir la ferme du Grand Laval, je prends enfin le temps de faire le montage de cet épisode. Sébastien Blache et Elsa Gartner, les paysans gardiens de la ferme, sont très sollicités depuis le début de l'aventure Réensauvager la ferme. La mission de visite de ferme a donc été déléguée à Melvin Guyot-Jaunard, jeune naturaliste de 23 ans en stage à la ferme, qui m'a emmené dans une balade de 2h30 à travers la ferme. Une balade qui m'a véritablement émerveillée. J'en parle d'ailleurs sur mon blog Medium, les liens sont en description. De cet enregistrement, j'ai tenté d'extraire la substantifique moelle pour réaliser 2 petits épisodes. Même si rien ne vaut l'expérience directe de l'immersion dans la ferme, j'espère vous transporter un peu dans l'univers de la ferme du Grand Laval. Je remercie Melvin pour sa passion, sa pédagogie, son enthousiasme inspirant et d'avoir pris ce temps pour me transmettre, vous transmettre, avec son regard de naturaliste, de photographe et son expérience de plusieurs mois au Grand Laval, comment une ferme peut très rapidement devenir hospitalière pour le vivant. Les passionnés d'ornithologie seront servis. Pour ce premier épisode, Melvin présente la philosophie de la ferme, son modèle économique dans les grandes lignes, les grands types de pratiques qui permettent ce réensauvagement paysan et les mécanismes qui permettent aux êtres vivants de coloniser un nouvel espace. Dans la deuxième partie, on découvrira la diversité des mares et des haies, les espèces qui ont commencé à les habiter et la particularité du Grand Laval comme ferme pionnière de la création d'ouvrages castor mimétiques. Je m'excuse par avance pour le vent et les cocoricos que vous allez entendre et qui pourront peut-être gêner les oreilles les plus sensibles. Mon matériel audio n'est pas encore adapté pour un son optimal. Vous pouvez me soutenir sur Tipeee pour m'aider à acheter mon nouveau matériel. J'en profite pour vous annoncer que le podcast a désormais son canal Telegram. N'hésitez pas à récupérer le lien en description pour vous abonner. Je remercie aussi Aurélie Sutter, à qui j'ai emprunté un petit extrait de son podcast Relations d'une très grande qualité pour cet épisode. C'est parti pour la visite. Belle écoute.
Gracias, Pachamama. Gracias, mamá, madre tierra. Gracias, Pachamama.
Donc là, t'es sur la parcelle donc historique, puisqu'à la bergerie que tu vois là-bas et ce qu'il y avait à gauche, là, ce qu'on verra après, C'est sur les parcelles historiques, donc ça fait 17 ans que ça a été repris à l'agriculture conventionnelle.
Okay.
Donc tu verras les photos tout à l'heure, mais en gros, il y a 17 ans, là, c'était du maïs classique. Ouais. Donc vraiment, le truc, ça, y avait pas, ils sont vraiment partis de zéro. Ce qui, moi, me met sur le cul, parce que je pensais qu'ils étaient partis, tu vois, qu'ils avaient eu une petite chance, un petit code de triche, mais non, ils sont vraiment partis, c'était du maïs, donc les premières années ça doit être quand même dur, quoi, parce que quand tu vois les photos...
Et il y avait juste peut-être cette haie-là ?
Non, il n'y avait rien.
Donc le peuplier qui est là-bas,
il a 17 ans. Ouais, il n'y avait rien. Je te montre les photos après, franchement, il n'y avait rien. C'est déjà ce qui est beau, en fait, c'est de se dire que là, ce que tu vois, tout ce que tu vois, ça n'a que 17 ans. Et pour moi, le « que », il est vraiment important, parce que, bon, quand on est tous passionnés de biodiversité, de vivant et tout, il y a un truc qu'on se dit, c'est bon, bah, on a tout flingué. Notre mission, c'est de refaire partir ça, quoi. Mais tu te dis souvent, tu penses à la forêt primaire, tu te dis, bon, bah...
Après moi, le déluge, quoi.
Bah, surtout, tu dis, tu plantes des trucs, tu dis, bon, bah, je serais mort que ça sera pas encore bien démarré, que ça sera pas encore fonctionnel. Et souvent, bah, tu le fais parce qu'il faut le faire. Enfin, c'est... Il n'y a que ça à faire si tu veux essayer d'inverser la tendance. Mais souvent, t'es un peu triste, tu te dis, bon, c'est con, je verrai jamais ce que j'ai semé, quoi. Et mais pas dans une manière égoïste, mais plus dans le sentiment d'avoir... En fait, tu sais même pas si ça va marcher, si ça va réussir, si ça va tenir. Et en fait, ce qui est bien, c'est que t'arrives ici, tu vois, quand 17 ans, enfin... J'ai regardé les relevés, même en 15 ans, t'as déjà ça. T'es déjà dans quelque chose de très vivant, de très sauvage, qui répond vachement bien. Et tu te dis, bon, bah en fait, je peux le voir à l'échelle humaine, je peux en profiter. Et je peux... Tu te dis pas, bon, il faut encore que la nature elle tienne 100 ans avant que ma forêt elle puisse les accueillir. Non, c'est là.
Même ce cerisier, il a 17 ans, quoi.
Ouais, en fait, en 15 ans, tu peux faire venir, en même pas une génération, et tu peux proposer quelque chose au vivant, un support qui est vachement fonctionnel et pertinent. Et je trouve que ça donne vraiment de l'espoir. L'esprit de la ferme, c'est vraiment, je t'en reparlerai au niveau du barrage à Castor, mais c'est de se dire. On ne fait pas une dérive naturelle, on n'est pas un truc un peu foufou, où on laisse tout, c'est plus un truc agricole. Non, eux vraiment ici, ce qu'ils veulent montrer, c'est qu'on peut vivre d'une agriculture à taille humaine, tout en préservant le vivant, tout en accueillant le vivant, mais la volonté même, la philosophie du truc, c'est de pouvoir, de travailler la terre, de vivre de la terre, et ça ne rend pas en mode, bon bah l'agriculture c'est secondaire, quoi. Il faut qu'ils en vivent. Et du coup, il y a deux choses qu'il faut prendre en compte, c'est que sur une parcelle, tu as les infrastructures agroécologiques, donc tu as tout ce qui est autour, donc ce qui n'est pas cultivé. Donc là-dessus, ils vont travailler, là, franchement, ils vont se faire plaisir. Je vais montrer tous les trucs qu'ils ont pu faire. Et tu as du coup les modalités les modalités agricoles, c'est sur les parcelles cultivées, c'est tout ce qu'ils mettent en place pour favoriser le vivant. Donc typiquement, là, je crois que je t'ai pas montré, mais je sais pas si tu as vu, mais déjà rien que les... Bah, déjà, ils sont en bio. Pour être en bio, ils sont plein de techniques, donc souvent l'intérêt d'avoir la polyculture élevage, c'est qu'ils sont autonomes. Donc typiquement, pour ne pas avoir besoin de faire des pesticides, de glyphosate, tout ça, ce que j'ai compris, ils font pâturer les moutons, mais surtout typiquement, tu vois, tu as les cultures de luzerne, apparemment ça étouffe toutes les adventices, et du coup ils font des rotations, pendant 3 ans ils font une parcelle en luzerne, du coup il n'y a plus de charbon, il n'y a plus rien, et après ils peuvent planter d'autres cultures. Donc au début c'est des céréales, c'est du tournesol, des machins, et plus le temps passe et plus les chardons, tout ça vont revenir. Ils vont faire avec des cultures qui sont de moins en moins exigeantes en termes de... Tu vois, là les haricots, il fallait vraiment que la parcelle soit nickel.
Ouais. Okay.
Et après, plus ça passe et à un moment ça va devenir trop critique, donc hop, ils vont repartir sur un cycle de 3 ans de luzerne. Donc du coup il y a vraiment cette rotation pour s'en sortir, pour pouvoir rester en bio, ce qui est quand même important parce que sinon... ça serait compliqué. Et là typiquement ils ont testé un autre truc cette année, c'est avec du sarrasin. Donc ils ont fichu du sarrasin, ils l'ont laissé sortir et comme c'est ça dégage des ça inhibe fait la croissance des autres plantes. Ouais. J'oublie à chaque fois. Hop, ils ont tout fauché quand ça venait juste de sortir et du coup la parcelle elle était nickel pendant super longtemps, le haricot a pu sortir et maintenant ils font deux passages à la main pour tout désherber. Il y a aussi un truc souvent on nous parle de service écosystémique. Et quand tu es dans le vivant, souvent toi tu es un peu en mode bon bah c'est ma seule carte à jouer pour faire adhérer les gens, un peu le côté utilitariste. Et ici, bah, le paradigme est complètement différent, c'est de se dire, on accueille un maximum de vivants, un maximum de diversité du vivant, on s'en fout des services écosystémiques, on n'est pas là à calculer, alors moi je veux ça en telle quantité pour...
Et non, ça vaut 50 euros.
Oui, tu vois, ça va réduire les pesticides ou machin, non, c'est on accueille. Et en fait, on sait que plus c'est complexe, plus c'est diversifié, et en fait, ce qu'on appelle la thèse de l'antagonisme, c'est que les espèces vont, il va y avoir de la mutualisme, de la compétition, plein de choses comme ça, et il n'y a aucune espèce qui va pouvoir exploser, parce que si une espèce explose, et souvent c'est un ravageur, c'est parce qu'on a tellement simplifié l'écosystème qu'il n'y a plus que 2-3 espèces qui peuvent, qui sont adaptées au milieu. Donc du coup forcément, s'il n'y a plus de compétition, parce qu'il n'y a plus rien, parce qu'il n'y a qu'un seul milieu qu'elles peuvent coloniser à balle, bah, elles vont exploser. Que si dans ton champ de maïs, donc on va dire la pyrale du maïs, si tu as des bandes enherbées, tu n'as pas mis qu'un seul espèce de maïs, que tu as plein de petits champs, bah, le machin il n'a plus qu'une petite surface, et il a plein de trucs autour, donc il ne va pas y arriver tout de suite. Et il va y avoir plein de prédateurs de machins qui vont venir parce qu'ils ont trouvé aussi leur habitat qui est là. Et au final, bah, t'as pas besoin d'avoir the espèce qui bouffe la pyrale du maïs. T'as un écosystème qui est tellement complexifié, tellement divers, qu'en fait, au final, t'as un équilibre qui se fait. Donc il y a vraiment ce côté, on n'est pas dans l'utilitarisme de la biodiversité du vivant. C'est vraiment la symbolique, c'est on veut vivre de la terre d'une manière qui est résiliente, stable, qui soit belle, quoi. Et on veut accueillir le vivant au maximum. Et il n'y a pas une volonté derrière de l'exploiter. On sait juste qu'en fait, plus on fait diversifier, plus en fait on fait un truc naturel. Et moins on risque d'avoir d'emmerdes en fait. Parce que...
Ouais, et moi ce que je me disais hier en écoutant le podcast, c'est Baptiste qui disait que c'est une des fermes hospitalières, c'est-à-dire qu'il accueille vraiment le vivant, mais en fait le vivant il nous accueille aussi, quoi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que. Alors oui, on a pris la décision, parce qu'en fait on peut prendre la décision d'accueillir le vivant, alors que le vivant il prend pas la décision, il se laisse porter par les interactions, par ce qui est. Il y a aussi ce truc de se dire que finalement, la part de service rendu par le sauvage, elle est énorme. Ce que disait Baptiste aussi, c'est que il y a plein de choses qui nous rendent des services qui ne sont pas domestiqués. Et on pense, nous, que, par exemple, les maïsiculteurs, ils pensent qu'ils contrôlent tout et que c'est eux qui contrôlent tout parce que tout est domestiqué, alors qu'en fait, tout ce qui est dans le sol, c'est pas domestiqué. Mais c'est aussi ça que je questionne, c'est, en tant que paysan, quel est notre lien au sauvage? Enfin, l'état d'esprit d'un paysan qui accueille le vivant, en fait, ça change. Enfin, l'état d'esprit, il change complètement, quoi.
Bah, en fait, ce que tu dis, c'est, tu vois, typiquement, le mec qui fait du maïs, il s'affranchit du vivant. C'est-à-dire qu'il arrive sur un terrain, tu sais, il se dit pas « bon là il y a ça, là il y a ça, là faut que je pense à ça et tout ». Non, c'est « je fais table rase et j'importe mon intrant, j'importe mon machin pour tout contrôler ». Vraiment le mec il s'est cru dans un labo de l'INRA, quoi. Et le problème c'est que déjà il croit qu'il contrôle, mais il contrôle pas tout. Et en fait c'est tellement complexe qu'au final bah, tu vois, il y a tout le temps des trucs qui se passent mal. Enfin, c'est pas possible, ça marche pas. Et moi, il y avait un truc, quand je suis arrivé, Seb, il m'avait dit, de toute façon, le modèle conventionnel, tu peux le détruire en 2-2. Tu n'as même pas besoin d'aller sur le vivant, c'est que tu regardes l'énergie. Et on te fait croire qu'ils produisent plus. Mais en fait, c'est que pour produire au-delà, il me dit, j'ai plus les chiffres, hein, il me dit par exemple, un hectare de blé, c'est un quintal de produits à la fin, et eux, ils produisent 15. Tu dis, ouais, mais eux, du coup, effectivement, ils produisent plus. Il me fait, en fait, si tu regardes l'énergie, pour pousser le système à produire plus, que ce qu'il est possible, en fait, t'es déficitaire en énergie, c'est juste que t'as une perte qu'eux ils prennent pas en compte. Donc ils disent, regardez, nous on a produit 15 fois plus. Mais en fait, non. C'est quoi ce que t'as dit? C'est on est avec le vivant, on n'est pas maître du truc, on compose avec. Et au final, bah, ils se rendent compte que ça leur apporte des galères et ça leur apporte plein de services aussi.
Ici, je vous propose une petite capsule extraite de l'épisode du podcast Relations sur le thème de l'initiative Réensauvager la ferme, cofondée par Sébastien Blache et le philosophe du vivant Baptiste Morisot, pour mener de grandes explorations naturalistes dans une petite ferme de la Drôme. Vous allez entendre Baptiste Morisot au micro d'Aurélie Sutter expliquer le changement de paradigme dans une ferme qui prend soin du sauvage. Vous trouverez le lien pour écouter la totalité de l'épisode dans la description du podcast.
Si vous voulez cultiver n'importe quoi, des fraises par exemple, vous êtes absolument dépendant. Donc, pour avoir une variété domestique, une espèce domestique à cultiver, vous êtes absolument dépendant de myriades d'espèces qui n'ont jamais été domestiquées et qui sont parfaitement sauvages. Donc les pollinisateurs qui vont rendre possible la reproduction des plantes à fleurs, dont la quasi-totalité des légumes et des fruits sont des manifestations, sont absolument sauvages, personne ne les a domestiquées. La faune des sols, avec ses centaines de milliers d'espèces qui permet la fécondité d'une terre, sont absolument sauvages, personne ne les a jamais domestiquées. La gamme d'oiseaux, d'insectes, qui jouent des rôles de régulation qui permettent à la fraise de ne pas se faire absolument dévorer, sont absolument sauvages et personne ne les a domestiqués. Donc, il y a une sorte d'invisibilisation qui est prodigieuse. C'est-à-dire quand on prétend faire du blé ou du soja ou de la fraise, on invisibilise les centaines de milliers d'espèces qui contribuent, qui sont indispensables au fait qu'on récolte des fraises à la fin. Et ces espèces et les dynamiques qu'elles portent sont sauvages. Conséquemment, il faut inverser le paradigme et reconnaître que la totalité de ce que produit une ferme est un don, je ne sais pas comment le dire autrement, est un effet de la présence de la vie sauvage sur cette ferme. Et à partir du moment où on inverse le paradigme et on reconnaît l'omniprésence et l'absolue nécessité de dynamique sauvage, c'est-à-dire non domestiquée, sur une ferme, et ben, ça change complètement la conception de l'agriculture, parce que ça veut dire que si vous voulez prendre soin de la production, et que vous voulez prendre soin de la ferme, il faut prendre soin des dynamiques sauvages sur la ferme.
On ne sait pas trop, tu vois, on comprend comment ça fonctionne, on comprend les forces et on fait avec, on ne fait pas contre. Et ça se passe plutôt pas mal. Donc tu vois, typiquement là, tu es dans le verger. Et donc souvent, le verger classique, tu vas avoir une espèce. Ils vont être débordés, ils vont appeler pendant deux semaines 40 étudiants pour qu'ils aillent tout cueillir et tout. Après, ils vont avoir trop, donc ils vont tout exporter dans le monde entier et après, bon, il n'y a plus rien. Et là, en fait, le verger, dis-toi que tu as une ligne. En général, c'est deux essences ou une ou deux espèces. Et du coup, en fait, ce qu'ils leur fait, qu'ils produisent ils ont commencé à vendre en avril et jusqu'à fin octobre, début novembre, ils vont produire des fruits. En fait, chaque semaine, tu les vois se déplacer. Pouf, ils font une ligne, la semaine d'après ils font une autre ligne. Et en fait, ce qui fait que, comparé à un système classique, déjà, dans l'état d'esprit, eux ils vont produire pour subvenir aux besoins dans le temps. Et c'est pas un gros truc d'un coup et après tu sais plus quoi faire de ta récolte, c'est eux, c'est un petit peu toutes les semaines. Leur modèle il est différent du conventionnel parce que du coup, déjà il y a une hétérogénéité de culture, donc il y a plein de trucs différents. Ce qui fait que chaque année il va y avoir forcément 3, 4, 5 cultures qui vont claquer. Mais comme ils ont plein de trucs, ils retombent tout le temps dans leurs pattes. Et ce qui fait qu'ils sont beaucoup plus résilients que quelqu'un. Maïs, l'année dernière, pas d'eau, c'était cuit, quoi. Donc cette année, les abricots, ça a foiré, mais les pêches, c'est super bien. Les pommes, c'est pas très bien cette année, mais autre chose qui va super bien. Du coup, chaque année, ils retombent sur leurs pattes. Alors, ensuite, ça leur permet de faire autre chose, c'est que le système comme ils ont là, t'as acheté une nectarine, tu les trouves belles, elles sont super bonnes et tout, mais ils pourraient pas les vendre. Parce qu'elles ne sont pas calibrées, tu sais, il faut tout le temps que ça soit tout le temps la même espèce, le machin. Donc tu ne pourrais pas la vendre en grande surface. En grande surface, il y aurait une marge, les gens se feraient une marge dessus, ça ne serait pas vendable en fait. De toute façon, ça serait trop cher. Donc eux, ce qu'ils ont trouvé pour que ce modèle soit viable, c'est de faire la boutique que tu as vue, donc c'est de vendre en circuit court. Donc en fait, le prix que tu l'achètes, c'est 100% qui leur revient dans la poche. Donc forcément, il y a 2-3 investissements sur la ferme. Et du coup, ce qui fait qu'en fait, si tu regardes les prix, là, en plus, en ce moment, ce qui est frappant, c'est avec toutes les marges qui se font, les grandes surfaces avec l'inflation et compagnie, où c'est même pas justifié. En fait, la note, elle est moins chère ici qu'en supermarché, où tu achètes des trucs qui viennent de l'autre bout du monde. Là, tu commences à voir en fait, que le système vertueux, où tu vends en local et tu vends en soutenable, c'est plus avantageux pour l'agriculteur comme pour le consommateur que les systèmes complètement bizarres qu'on nous fait. Ce qui est bien, c'est que du coup, leur épicerie, pour que ce soit intéressant, ils produisent toute l'année. Donc, toute l'année, ils ont quelque chose à mettre à vendre. Et ils ont plein de trucs à vendre. C'est pas juste un produit, sinon ce serait un peu compliqué. Toute l'année, ils peuvent subvenir à la cinquantaine de clients qu'ils ont en leur donnant des fruits de saison, tout le temps différents, chaque semaine. Et ça, tout le long. Et c'est pas genre juste on a 40 000 pêches pendant deux semaines et après, on n'a plus rien. Et ça leur permet, ce modèle-là, tu vois, ça leur permet autant eux économiquement d'être viable et de proposer un truc intéressant, et en même temps comme c'est diversifié en essence, en espèces et dans le temps, si un truc qui claque c'est pas grave parce que dans deux semaines c'est absorbé par l'autre, Et aussi, c'est que déjà, tu as installé une diversité. Et quand tu as une diversité, bah, tu mets de la complexité au niveau... Donc là, c'est juste dans la modalité agricole. Comme tu as de la complexité, tu as plein d'espèces, bah, ton écosystème, ton vivant va être complexe aussi. Du coup, il n'y a pas un truc qui va pouvoir prendre le pas sur l'autre. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et tu vois, quand je fais mes chasses de nuit pour les papillons, j'ai quasiment jamais de ravageurs où j'ai un carpopable de la pomme, tu vois. Tu vas dans un verger classique, t'en as des milliers.
Moi, je suis passionnée par les poules. En fait, il y a tellement d'interactions et tellement de choses qui peuvent impacter la place du carpocaps, par exemple, que aujourd'hui, ce qui a été mesuré, c'est juste la biodiversité sur la ferme. Ce qui est en train d'être mesuré, par contre, l'impact des poules sur tel ou tel ravageur, ça, c'est pas mesuré.
Mais je t'avoue qu'en fait, c'est vraiment le truc, c'est qu'on s'en fout, hein. Enfin, ils s'en foutent un peu de savoir qui fait quoi, ou... C'est juste, on complexifie, et en fait, le truc global, c'est que plus c'est complexe, plus c'est... En fait, plus c'est résilient, plus c'est stable, c'est dynamiquement stable, donc plus c'est intéressant pour nous, plus c'est intéressant pour le vivant. Et c'est vraiment ça, en fait. Moi, quand je suis arrivé, et que, tu sais, j'ai commencé à leur dire, mais pourquoi vous sortez pas de chiffres sur... l'impact de telle espèce ou de telle espèce, c'est pour légitimer le modèle. Et ils disent, non, Basis, il m'a dit, le scientifique, c'est bien, mais il y a un moment, c'est... On sait très bien que plus c'est complexe, plus c'est favorable au vivant. On ne va pas plus loin, on n'est pas là à faire le tri dans ce qu'on veut, dans ce qu'on ne veut pas, dans quelle quantité. Et c'est beau, du coup, parce que du coup, ça t'enlève une pression, parce que ça marche. Tu sais pourquoi, mais tu n'as pas besoin de le prouver, de t'embêter à le prouver au millimètre près. Et tu vois, les poules, ce qui est intéressant, du coup, c'est qu'ils sont en polyculture élevage. Donc je disais, grosse diversité de cultures et tout. Et la polyculture élevage, ça leur permet d'être vraiment autonome. Parce que du coup, donc tu vois, là, t'as une parcelle de verger. Là, tu te dis, bon, alors le verger, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut de l'insecticide, il faut de l'herbicide, tu vois, enfin, il faut pour éviter la compétition au sol. Il faut plein de trucs. Et ils font aussi, donc du coup, polyculture élevage, ils ont de l'élevage, ils font des poules, des moutons. Les moutons, il faut les nourrir. Bah, le truc tout con, c'est les poules, elles passent, donc elles rotationnent, c'est en général, le poulailler reste un mois sur le carré que tu vois. Donc, elles enlèvent l'herbe, elles enlèvent de l'insecte, en soi, et elles fertilisent le sol avec leurs excréments. Donc, en fait, en nourrissant tes poules, on va dire, et tes moutons naturellement, tu réponds aux problématiques de ce qu'il faut importer, ce qu'il faut apporter dans le verger pour que tu aies une production de fruits. Et du coup, bah, plutôt que d'avoir deux parcelles, une parcelle mouton, une parcelle machin, bah, t'as lié les deux ensemble. Alors, en fait, déjà, ce qui est fou, moi, quand je regarde, c'est qu'en soi, bon, je suis naturaliste, j'étais jeune, mais je suis passionné de ça depuis que je suis tout petit, donc les espèces, je les ai vues, tu vois. Ce qui est connu dans les bouquins, les taxons que je maîtrise, je les connais tous et j'ai déjà plus ou moins tous vus, tu vois. Et ce qui est fascinant ici, c'est que j'arrive sur la ferme, donc j'ai des trucs qui sont relativement communs. C'est-à-dire que quand le milieu est là, en général, tu les trouves. Parce que, en général, partout, le milieu n'est plus là, donc même les trucs communs, c'est qu'ils sont, bah, tu les trouves plus. Et en fait, en arrivant ici, je me rends compte que toutes les espèces que je pouvais voir, je les ai vues. Et déjà, quand tu arrives à ce truc-là, tu te dis, non mais attends, je vais me balader sur un milieu agricole, sur une ferme, et toutes les espèces que je pourrais voir là, parce que le milieu est là, je les trouve. Donc déjà, ça t'envoie quoi comme message ? Ça t'envoie que c'est fonctionnellement viable, parce que bah, les espèces, elles trouvent toutes l'habitat qu'il leur faut pour vivre. Donc tu te dis, bon, bah bingo, j'ai gagné. Et c'est vraiment impressionnant de te dire que sur 17 hectares, tu arrives à voir tout ce que tu pourras avoir, quoi. Donc t'imagines ce que c'était un peu le milieu naturel avant. C'est une tente malaise, c'est pour choper des mouches. Donc là, quand je te parlais du verger, ce que tu connais en agroécologie, bon, bah, c'est les modalités. Donc c'est comment accueillir le vivant au sein des parcelles. Donc diversifier, laisser l'herbe, mettre des moutons et tout. Et il y a tout ce qu'on fait autour. Et du coup, il y a un petit ruisseau là, et ils se sont dit, bon bah du coup, on a un milieu, c'est le ruisseau, qui est bien en végétalisé. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour proposer sur cette surface-là qui n'est pas cultivée, pour accueillir plus le vivant que de juste laisser une bande enherbée. Ils se sont dit, là, si je dévie le cours d'eau et que je laisse comme ça des petites dépressions, mais en fait, ça va faire une poche d'eau, ça va faire un marais. Hop. C'est bien la pampa maintenant. Hop. Enfin, je sais pas si tu vois. Donc, ça va de là-bas.
Là, le cours d'eau, il est là-bas ?
Il est tout là-bas, là, derrière les sols. Et en fait, là, il y a un... Là, t'entends, il y a une petite déviation. L'eau arrive là-bas et en fait, ça court encore derrière le sol qui est sur ta droite. Tu vois, c'est que qu'est-ce qu'ils auraient pu faire ? Ils auraient juste pu laisser dessus en friche. Ils se sont dit, non, quel est le... En fait, c'est basé sur le réensauvagement et l'écologie potentielle.
Quel est le potentiel de cette
espèce ? Voilà, donc c'est donner des potentialités, donc c'est qu'est-ce que je peux faire d'hospitalier pour le vivant ? C'est pas tiens, je veux ça ou ça comme espèce, c'est comment je peux maximiser mon vivant ? Et là, on dit franchement, il y a le ruisseau à côté, il y a une petite dépression. Là, je peux créer une zone humide en plus. Zone humide, on sait très bien que c'est vachement important qu'il y en a de moins en moins. Donc ça peut être vachement intéressant de créer cette zone humide là. Et on va voir des espèces qui sont vraiment de ces milieux-là. Tu vois, typiquement, là, les petites libellules que tu voyais avec les ailes un peu noires fumées, c'est les caloptériques, c'est des libellules de rivière très végétalisées et à faible courant. Bah, ils ont créé l'habitat pour cette espèce-là, donc que tu peux trouver que sur cet habitat-là, tu vois. Et pas sur une mare. Tu verras sur les mares tout à l'heure, on ne les verra pas, les caloptérix. Donc du coup, tu as cette idée de vouloir créer un milieu humide, c'est cool. Mais eux, ils vont plus loin, c'est il faut vraiment être dans l'hétérogénéité au maximum, c'est créer plein de différents milieux humides pour avoir plein, accueillir plein de vivants différents.
Moi, ce qui m'impressionne aussi, c'est que le vivant a réussi à sniffer le lieu, quoi, et à dire, en fait, il y a un coin ici. Bon, je pense que ça fait 17 ans qu'il y a de plus en plus d'espèces, donc c'est exponentiel.
Ouais.
Mais imaginons que la ferme soit vraiment dans un no man's land de, je sais pas, de...
On est dans un no man's land.
Oui, mais il y a quand même la petite forêt à côté. Enfin, tu vois, il y a quand même 2-3 petits spots dans la Beauce. T'as des endroits où vraiment, il y a... Tu peux avoir 500 hectares sans un arbre.
Ouais.
Et si t'essayes de faire ça, par exemple, dans un vrai no man's land, je me demande d'où viendraient les espèces, tu vois. Est-ce qu'elles peuvent venir? Il faudrait presque les rapporter dans des boîtes.
Alors, il y a deux choses. Déjà, la plaine de Valence, franchement, c'est un endroit qui est bien niqué. Si tu regardes sur une carte, la ferme, elle est vraiment dans un cercle de monoculture intensive. Là, on passe te haies et tu retournes en dépression, quoi. C'est vraiment... tu vas en trouver des fermes super hospitalières aux vivants, dans des endroits vraiment cool, naturels, proches, collés à des marais, collés à des vieilles forêts, où là, bah forcément, du coup, la question se pose moins. C'est juste une extension et c'est super cool. Mais là, vraiment, ici, ils sont vraiment dans un endroit qui est hostile aux vivants, comme tu le dis. Et du coup, comment le vivant colonise? En fait, il y a des forces, déjà rien que sur les oiseaux, on ne se rend pas compte, mais pendant la migration, il ne faut pas se dire que les machins, ils oscillent entre les raies naturelles. C'est vraiment... Déjà, quasiment tout passe la nuit. C'est presque un râteau qui passe comme ça. Et en fait, c'est juste que tant que les machins ne croisent pas un endroit naturel, ils passent pas. Et dès qu'ils voient une petite mare, un petit spot pour se poser, bah, comme ça passe en râteau, s'il y en a un qui passe sur la route, il va forcément le voir. Et typiquement, tu vois, le barrage à Castor, je te montrerai plus tard, on a fait une zone humide, une vasière, pour les limicoles. C'est les oiseaux sur pattes avec un long bec qu'on voit surtout en bord de mer à la chaussée des Verts sur la plage. Donc je remets le barrage en eau et tout. Le lendemain, il y avait deux chevaliers gambettes. Et il fait « Oh putain, trop bien, ça fait 15 ans que je n'avais pas vu sur la ferme, tu vois. » Ils avaient une fois se posé sur un ruisseau plus loin, tu vois. Ils étaient super heureux et là, les machins sont restés 2 semaines à se nourrir tout le temps. Et si tu regardes les données en drôme de ce oiseau-là, genre, on le voit quasiment jamais parce qu'il n'y a pas de zone humide, il n'y a pas de marais et tout. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne passe pas. C'est juste qu'il passe en migration, il ne s'arrête pas. Parce que il survole des champs de maïs, ça n'a aucun intérêt pour lui. Donc ça se trouve, il va se fatiguer, il va mourir de faim parce qu'il n'aura rien trouvé sur sa route pour s'arrêter et reprendre des forces. Mais maintenant, ceux qui passent dans le coin, quand ils passent au-dessus de la ferme, ils vont s'arrêter. Et en fait, toute l'année, moi, depuis que je suis là, c'est ça que je vois. C'est que tous les jours, il y a des nouveaux trucs qui sont posés et qui viennent s'alimenter parce qu'ils ont eu la chance de passer au-dessus du Grand Laval et qu'ils voient qu'au-dessus du Grand Laval, il n'y a pas que du champ de maïs et que d'un coup, il y a un truc. En fait, les zones naturelles, ceux qui ont la chance de passer au-dessus, ils s'arrêtent parce qu'il y a à manger. Mais en fait, il y a plein d'oiseaux qui passent pas au-dessus de ces réserves et ils s'arrêtent là où ils peuvent. Et en fait, souvent, ils ne trouvent rien. Et en fait, ici, tous ceux qui passent dans le coin, ils trouvent ça et ils s'arrêtent parce que ça leur correspond à leurs besoins.
Encore une petite pause pour vous donner des nouvelles des dernières observations automnales réalisées sur la ferme. Dans l'Atlas du Grand Laval, que vous pourrez trouver en ligne, plus de 2000 espèces animales ont été recensées sur la ferme et la dernière surprise a été le passage d'une cigogne noire en pleine migration le 23 septembre. C'est la première fois qu'elle se pose sur la ferme. Elle a pu être détectée grâce aux pièges photos mis en place près des mares. Cette espèce mythique est en augmentation en France. Elle niche dans les grands massifs forestiers, plus rarement dans des arbres isolés. Mais elle ne niche pas encore dans la Drôme, qu'elle traverse cependant lors des deux périodes migratoires. Elle a été observée en survol le plus souvent. L'observer posée est un événement rare. Ce qui est magique, c'est de voir qu'elle a sans doute été séduite par ce qu'apportent les ouvrages Castor Mimétique, mis en place 6 mois plus tôt sur la ferme.
Il Ensuite, les insectes, c'est un peu pareil. C'est que nous, on est là, on voit une libellule dans son milieu, on dit « Ah bah cool, libellule dans son milieu. » Mais en fait, il y a une quantité énorme de chaque espèce d'insecte, on en voit qu'il la fâche cachée. Et en fait, il y a ce qu'on appelle la dispersion. Donc, ce qui, à un moment, souvent en fin d'été, typiquement les libellules, bah, il y en a plein qui vont se balader, tu vas les retrouver en plein champ de maïs ou en plein machin. Et eux, bah, leur but, c'est justement de se barrer un peu en aléatoire. Et
d'aller coloniser ailleurs.
Donc, la plupart, en fait, on ne se rend pas compte, puis il y a énormément qui vont mourir parce qu'ils ne vont jamais arriver à un endroit. Puis, bah, il y en a, pouf, ils vont se perdre et ils vont avoir la chance d'arriver au Grand Laval, ils vont venir prendre un œuf, deux œufs, et puis après, avec le temps, ça va être parti, quoi. Donc, après, on remarque quand même, c'est qu'il y a plein d'espèces qui ont des capacités de dispersion qui sont assez faibles, où il leur faut des corridors écologiques, et là forcément c'est compliqué. Mais au final, tu vois, en 17 ans, tu arrives, tu regardes les espèces qu'on peut avoir ici, on les a quasiment, enfin toutes les espèces qu'on pourrait avoir potentiellement ici, on les a, voire plus. Du coup, tu te dis, bon bah finalement, en fait, il y a vraiment des forces de dispersion et de colonisation que.
Le vivant est magique.
Ouais, on se rend pas compte, et en fait, c'est que à partir du moment où tu lui proposes l'habitat, à part sur 2-3 espèces, on sait très bien que ça va être compliqué à coloniser, qu'il va peut-être falloir les aider, ou voilà. Mais pour la plupart, en fait, ça va se faire tout seul et très vite. Et ça donne beaucoup d'espoir, du coup, parce qu'en fait, tu te dis, si on faisait ça un peu partout, ça répondrait et on ferait beaucoup de bien, quoi.
Ce que je trouve très beau là-dedans, c'est que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que les paysans peuvent régénérer le vivant. En fait, depuis la nuit des temps, les paysans ont entretenu des relations, quoi que non, ou est-ce qu'au tout début de l'agriculture, les paysans avaient cette conscience des interactions écosystémiques, est-ce qu'ils recréaient des habitats pour des espèces?
Mais avant, bah, les gens, ils avaient des mares pour les vaches ou pour les incendies. C'était pas foncièrement voulu pour le vivant. Mais au final, ça servait au vivant de créer une mare par-ci pour avoir une réserve d'eau ou pour les vaches. Et fatalement, sa mare, il la faisait pas en béton ou une cuve droite. Ils n'avaient pas les moyens d'aujourd'hui, donc c'était une vraie mare, tu vois, avec des pentes douces où ils n'avaient pas le temps de faucher, donc ils laissaient les côtés qui étaient enherbés. Ou... Je pense qu'involontairement, le truc se faisait. Et de toute façon, quand tu regardes, la biodiversité, elle s'effondre plus le temps passe, quoi. Donc, en fait, ce qui est fort, c'est que dans un monde où le paradigme a changé et qu'on exploite tout et qu'on laisse plus du tout de place, parce qu'avant, c'est pas qu'on voulait laisser de la place, c'est qu'on n'avait pas besoin ou on n'avait pas le temps, ou voilà quoi. Maintenant, on a la puissance de le faire. Et eux, du coup, ils ont ce déclic de se dire non, mais c'est pas parce qu'on peut, voilà, c'est le principe de la ferme, c'est pas parce qu'on peut tout exploiter et tout défoncer qu'on va forcément le faire en fait. Parce qu'on peut très bien vivre en laissant du vivant et qu'aujourd'hui il faut. Donc il y a effectivement cette conscience.
En tout cas, c'est la première fois, je pense, dans l'histoire de l'humanité que les paysans et tous les citoyens d'ailleurs, parce qu'on. Centre sur les paysans, mais toutes les personnes qui peuvent agir sur le vivant. C'est la première fois qu'on a ce rôle-là qui devient tellement crucial. Parce que nous, on peut prendre la décision, tu vois. Une vache, un chevalier gambette, il va pas te décider. Il est là, il se balade et instinctivement, il va faire son coup. Mais nous, on peut décider, on va dire là, je vais régénérer, là, je vais régénérer. C'est génial comme mission.
Je suis d'accord. Et il y a un truc donc déjà dans les modalités donc agroécologiques, donc modalités de ce que tu peux faire dans ta culture pour être plus hospitalier au vivant. Il y a donc diversifier, donc avoir plusieurs espèces, tu vois. Et il y a aussi en fait, juste ça a été montré, tu prends un truc conventionnel. Tu réduis la taille de tes parcelles et tu fais plein de petites parcelles plutôt qu'une grande parcelle. 100 mètres de bande enherbée.
Oui,
juste ça. Juste ça, ça a un effet qui est fou. Oui. Et ici du coup c'est ce qu'ils font, c'est qu'ils n'ont pas des parcelles de plus de 1 hectare ou 1 hectare 5. Oui. Du coup, tu vois, c'est plein de petites parcelles. Et en plus, le must, c'est qu'ici, du coup, dans les infrastructures agroécologiques, donc ce qui rajoute en plus, c'est que tu as tout le temps bande enherbée, plus ce haie à chaque fois, tu vois, tout est coupé comme ça. Donc, ce qui fait que tu as les espèces d'haies, les espèces de lisières, des espèces un peu forestières. Et en plus, tu as les bandes enherbées, donc tu as les espèces prairiales. Et du coup, ça fait aussi des zones refuges quand ils sont obligés de moissonner. Et le truc qui est vraiment cool, tu vois, aussi, ce que Seb dit tout le temps, c'est que tu vois, ça, c'est une haie plantée. Donc là, c'est cool s'ils ont fait une haie vivrière avec tu vois, des fruitiers. Mais en fait, les haies les plus jolies, c'est celles qu'il n'a pas plantées. Donc tu vois la haie là, qui est là, qui est immense, ça c'est une haie qu'il a pas poussé, il a pas planté, il a rien fait. Il a juste dit là je fauche pas et ça a poussé, tu vois la haie qui est là aussi. Comme pas possible. Il y a des haies tu vois qui sont un poil plus récentes mais.
Quoi.
Voilà.
On peut aller voir ou
tu... ouais on va faire le tour, okay. Parce qu'il y a plein de trucs, en fait il y a vraiment plein de trucs à montrer. Et tu vois, du coup c'est ça, c'est vrai que même en fait planter une haie, bah, en fait la laisser spontanément, ça va être les espèces locales, les machins, et ça va pousser du tonnerre.
Bah là, il a arrêté de faucher, donc ça veut dire que le sol avait tout à l'intérieur pour démarrer le processus de succession naturelle et ensuite que des oiseaux, des animaux et tout viennent chier et puis apporter ce qu'il faut. Et enfin, c'est tout simple, c'est tellement beau, quoi.
Ouais.
Moi, ça me... Enfin, tu vois, je sais pourquoi je suis là, quoi.
Surtout, c'est qu'on peut le niquer en un coup de... En 30 secondes, mais alors pour le régénérer, il faut 100 ans, quoi, donc...
Bah, ça dépend.
Ah, mais c'est... Je sais plus c'est quoi le chiffre, je sais plus si c'est 10... Un millimètre, je sais plus si c'est 10 ans ou 100 ans qu'il faut pour le ré...
Ça dépend les pratiques que tu fais.
Mais c'est...
Si tu fais du pâturage tournant, que t'apportes du compost et tout, en 5 ans, tu peux avoir des 1-2% de matière organique...
Ouais. Juste là, je vais te montrer, mais tu sais, quand on parle de diversité encore, souvent on nous dit fauche tardive. Donc c'est dire on touche pas avant septembre. Ouais. Et le truc, c'est que mai-juin, faut éviter. Mais en fait, si tu fauches en fait, un peu tout le temps en dégradé, tu vas tout le temps permettre à d'autres plantes de pousser. Et du coup, en fait, faire une fauche, tu vois, il y a des parcelles où j'étais un peu triste, tu vois, ils sont passés en avril, en mars, début mai. Ils ont fait les moutons et les poules à des endroits différents. Du coup, tu as une communauté végétale complètement différente. Tu vois, c'était pâturé très tôt, donc là, en fait, c'est du lotier, tout ça, et ça, c'est plante d'été, donc c'est parce que ça a été pâturé très tôt en saison que t'as permis à faire venir. Donc, ouais, le fait qu'ils aient c'est fait un truc progressif, une fois, c'est en extensif, mais en fait, ça crée une communauté végétale, et en fait, plutôt que de juste de dire je laisse tout pousser et c'est la pampa et puis à la fin, bah eux, ils peuvent pas de toute façon parce qu'il faut nourrir leurs bêtes. Mais le fait de faire petit à petit en dégressif, en fait, tu crées plein de prairies différentes. Et en fait, là, chaque bande, c'est une communauté végétale un peu différente. Donc, tu vois, dans cette idée de diversité, du coup, d'hospitalité aux vivants, là, c'est carton plein. Parce qu'en fait, il y a plein de trucs différents qui peuvent venir sur la même parcelle juste parce que tu n'as pas fauché en même temps. Et enfin, j'y fauché, mais c'est pâturé. Il n'y a pas... Par deux, trois exceptions, ils ne fauchent pas. Après, du coup, les poules, c'est surtout Elsa qui... Bah, Elsa, ouais, elle connaît à fond. Je sais qu'ils ont plein d'espèces différentes. Ils refont leurs poules et tout eux-mêmes. C'est avec, ils ont une couveuse, des poussins. Il y a aussi autre chose, tu vois, c'est qu'ils produisent pas mal de déchets de coupe.
Ouais.
Et plutôt que de le brûler comme certains font, de le balancer, ils font des sèches. C'est des habitats pour les reptiles qui sont complètement fous. Là, au printemps, mais il te dit, il y avait quatre serpents sous la plaque, il y a des lézards verts de partout qui courent partout. Là, c'est moins la saison. Et ça, c'est un habitat pour le vivant qui est vraiment ouf. Et en plus, tu vois, c'est un déchet qu'ils ont, ils savent pas trop quoi en faire, là, les coupes d'arbres. Du coup, tu vois, typiquement, on en parlait tout à l'heure, c'est que ça va se décomposer au fur et à mesure parce que bah, là, elle diminue chaque année. Tu vois, déjà, elle était deux fois plus haute au printemps quand ils ont tout coupé. Déjà, là, en quelques mois, ça est descendu. Ça va descendre encore cet hiver et puis l'année prochaine. Et en fait, ça reste plus ou moins stable, tu vois, la taille de la haie. Mais en même temps, bah, ça crée un habitat qui est complètement fou. Ça régénère le sol en dessous, j'imagine. Et les endroits où on a le plus de reptiles sur la ferme, c'est dans le verger. Et c'est des endroits où il y a de la haie. Tiens, regarde le gros corps du légastre là. Donc ça, c'est une libellule de rivière d'eau fraîche, je sais pas si tu vois là. D'eau fraîche, courante, donc de rivière fraîche, bien végétalisée. Bon bah, c'est la rivière qu'il y a là-bas, quoi. S'il n'y avait pas la rivière là-bas, il n'y aurait pas cette libellule.
Alors, comment vous sentez-vous après avoir écouté cet épisode? Je vous invite à prendre juste un petit moment pour ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Si vous souhaitez m'encourager à continuer à développer mon travail, vous pouvez me soutenir sur mon Tipeee Agroécologie Voyageuse. Une autre manière de me soutenir est de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et laisser un petit commentaire. Vous pouvez aussi partager cet épisode à 3 personnes qui pourraient être intéressées par ce sujet et suivre le podcast Agroécologie Voyageuse sur Instagram. Si vous souhaitez être tenu informé de la sortie des prochains épisodes, je vous invite à vous inscrire à ma lettre d'inspiration agroécologique, le mycélien. Tous les liens sont dans la description du podcast. Prenez bien soin de vous et surtout, n'oubliez pas, ne soyez pas experts, soyez vers de terre.